top, c'est parti, nous sommes en ligne.
C'est quoi le titre de la chronique?
Ah mince. La chronique non préparée, comme d'habitude, puisque c'est la spécialité de l'émission. Non, cette fois-ci, on a quand même un petit peu préparé.
Ouais,
aujourd'hui,
vite fait.
Et pas de dispute. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Deux mouvements, donc le cyberpunk et...
Le pas cyberpunk. Comme tous les dimanches.
Pour ceux qui ont la ref, ça commence à devenir une ref très ancienne.
Oui.
Il y a...
Cyberpunk, goth, et à la limite, je te parlerai de l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle, parce qu'il y avait un intéressant concept là-dessus. Mais...
C'est surtout en fait la différence qu'il y a entre le mouvement littéraire et l'œuvre en elle-même. Comment une œuvre arrive à un mouvement?
Et puis aussi, quels sont les mouvements autoproclamés qui sont dans l'œuvre et quels sont les mouvements que l'œuvre générera et qui ne dépend pas du tout de l'intention de l'auteur?
Exactement.
Hein, par exemple, si on me dit que Baudelaire était précurseur de Marilyn Manson, laissez-moi rigoler.
Mais ça a été l'une des conversations qu'on a eues justement qui nous a amené à faire cette émission. C'est justement, est-ce qu'il y a une ligne directe entre le mouvement gothique baudelairien du 19e siècle avec cette évolution musicale qu'il y a eu, qui a fait dans les années 90 surtout,
et pas seulement musical, mode, pictural, etc.
Ce n'est pas tous les mouvements qui peuvent se targuer d'avoir un style vestimentaire aussi détaché que...
T'imagines le style vestimentaire impressionniste?
Ben ça n'existe pas.
Voilà.
Non mais, voilà, donc maintenant on va voir ça. Et puis pourquoi on parle aussi du cyberpunk? Eh bien parce que le cyberpunk a lui aussi un mouvement qui est plus centré sur les œuvres en elles-mêmes et qui a généré entre nous une grosse dispute. Normalement on devait sortir une émission sur le cyberpunk.
Il y a quelques mois,
il y a même quelques années. Hein.
Ils sont toujours en haut de ton étagère?
Bah déjà c'est toi qui as mon livre, hein, je te rappelle.
Mais c'est toi qui as mes quatre livres.
Oui, j'en ai lu un et demi.
Bel effort.
Oui. Non, mais on parle, en fait, quand on parle des livres, on parle de Gibson. On va le dire aux auditeurs. Moi,
Au début, en tout cas.
Non. Je considère que le cyberpunk n'est pas l'apanage d'un seul auteur, en l'occurrence Gibson, celui dont tu m'as passé les livres, que c'est un mouvement qui est un peu plus ancien que Gibson, beaucoup plus récent, qui est passé aussi après Gibson, plus un mouvement des années 90 que des années 80 d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'œuvres des années 90.
Ce en quoi je m'inscris en faux, comme d'habitude.
Voilà, mais on est là pour discuter. Pour moi, Gibson, c'est l'un des auteurs cyberpunk,
Non. Alors, pour moi, Gibson, c'est l'auteur cyberpunk par excellence. Ensuite, tous les auteurs se sont soit attachés à reproduire l'univers de Gibson, soit s'en démarquer. Mais il n'y avait pas d'entre deux jusqu'à à peu près 15-20 ans.
Bah.
Mais c'était très difficile. C'était un pavé majeur dans la mare de la science-fiction. Je crois qu'il a eu le prix Hugo, le prix Nebula. Il y a eu des très grosses distinctions dans le monde de la science-fiction américaine et anglo-saxonne en général. On ne peut pas dire vraiment que Akira, c'est du cyberpunk, mais on ne peut pas dire vraiment non plus que Metropolis est du cyberpunk. C'est bien ça le problème.
Alors, pour moi, juste pour répondre à la dernière chose, Metropolis, c'est plus de la science-fiction. Ça n'est pas de la déchéance, ça n'est pas de l'humain-machine. Il y a un robot, mais ce n'est pas un robot humain.
Oui, parce qu'en fait, cyberpunk, qu'est-ce que c'est? C'est le croisement de la haute technologie, donc du cyber, et du mouvement. punk des années 70.
Alors, punk...
No future.
On va préciser, punk, ça vient de l'anglais qui veut dire renverser. En l'occurrence, renverser la société, etc. Oui, c'est ça que ça veut dire, punk. Philippe K. Dick, Les Moutons Rêvent-ils de les Moutons Rêvent-ils...
Ouais, dit Blade Runner, quoi, comme tout le monde.
Oui. Non, mais Blade Runner, c'est autre chose, parce que Blade Runner, à la base, c'est un autre livre qui s'appelle Blade Runner, qui n'a rien à voir, c'est une histoire de policière avec des médecins, et c'est... Ridley Scott qui a mélangé.
Non, le bouquin de
Philippe K. Dick.
Le film a été le titre original, c'est.
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques.
Mais après, ça a été le Blade Runner.
Non. Alors Blade Runner, que Blade Runner s'est inspiré de l'esthétique qui est décrite dans Gibson. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai lu d'ailleurs. Neuromanciens,
oui.
Donc de Gibson, C'est effectivement l'esthétique que tu retrouves avec ce côté japonisant qui est très très important, alors, qui n'est pas dans alors,
japonisant,
Kadic.
mais aussi vert et néon, mais c'est un mélange de plusieurs genres, c'est un mélange de plusieurs cités, plusieurs genres, etc. Je veux dire que ça soit des blagues potaches d'universitaires américains jusqu'au Japon, etc. C'est un grand mix cyberpunk. C'est pas que japonais, c'est pas que Vérénéon, c'est pas que blagues potaches d'universitaires américains.
En l'occurrence, l'esthétique de neuromanciens se retrouve dans Blade Runner, mais l'œuvre de K. Dick, c'est justement là où se trouve notre désaccord, c'est que l'œuvre de K. Dick est antérieure à Gibson, et même s'il n'y a pas cette esthétique-là, il y a cette fusion homme-machine avec les réplicants, qui d'ailleurs,
oui, mais,
on
mais,
ne parle
mais,
jamais
mais,
de réplicants
mais,
hein,
mais,
dans
mais,
le livre.
Mais Philippe K. Dick, en fait,
sont les androïdes.
Son grand truc... C'était l'influence de drogue qui affectait le cerveau.
Qu'est-ce qu'il y a de plus cyberpunk que ça? Drogue, technologie, humain,
oui,
machine.
Oui, mais il n'y avait pas que Philippe K. Dick, c'est surtout les drogues. C'est surtout les drogues, moins que Jeter par exemple, mais c'est surtout les drogues et les perceptions altérées.
Oui.
C'est vraiment ça.
Je l'ai plus retrouvé dans Gibson justement, l'abondance de drogues. Je parle des personnages, je parle pas de l'auteur, hein, parce que je sais que K. Dick c'était vraiment il n'allait pas avec le dos de la cuillère, hein, au niveau drogue. Gibson peut-être, hein, j'en sais rien. Mais j'ai plus.
Tu sais, dans ces années-là, quand t'étais un auteur à succès.
Oui.
Voilà.
Les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques? L'esthétique qui est décrite, je parle du livre, je parle pas du film, ça ressemble plus à un espèce de Jetson post-apo. Mais moi, j'ai pas vu de drogue, tout ça. Ça, c'est plus l'esthétique de Gibson.
Si. Il y avait même des orques pour modifier la perception chez K. Dick.
Alors ça, j'ai trouvé ça fantastique.
L'orque Penfield, ouais.
Exactement. Exactement. Tu le retrouves au tout début du livre les androïdes. Je vais juste dire les androïdes, parce que ça m'énerve à chaque fois de dire les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques.
Blade Runner.
Blade Runner. Je trouve cette idée fantastique. Un orgue qui, selon les touches que tu presses, peut changer ton humeur.
Bon, remarque, Boris Vian dans L'écume des jours avait fait à peu près la même chose avec le Piano Cocktail, c'est-à-dire qu'en fonction des touches que tu fais, ça te fabrique un cocktail différent.
Tu sais, tu peux aussi, si tu veux faire une analogie, tu peux aussi trouver dans Barbarella l'orgue à orgasme.
Oui, mais bon, là, là c'est pour générer une seule émotion, alors que Lord Penfield ou le piano octave, c'était oui. un, c'est vraiment un éventail complet
oui, oui.
De trucs. Et pour me refermer de la parenthèse définitivement provisoire avec Philippe K. Dick, c'est un autre roman qui est une nouvelle qu'il a écrite, qui est absolument hallucinant, qui s'appelle Ubique. Mm-hmm. En fait, attention, ça va spoiler, Max. Vous pouvez, on vous donnera le time code, mais attention, ça va spoiler, Max. En fait, c'est des personnages qui essayent de trouver quelqu'un de mort dans le roman, etc., et qui arrive à le retrouver parce qu'en fait, ce mort en fait n'est pas mort, il est vivant, etc. Et le twist. Et puis tu retrouves toujours des produits Ubique, dentifrice Ubique, etc. Et le twist final, il est absolument terrifiant. C'est que c'est eux qui sont morts et que lui est vivant.
D'accord.
Je suis vivant et vous êtes mort. C'est une des phrases clés du livre. Et c'est aussi une biographie de Philippe K. Dick qui a été parue en français sous le même nom. Je suis vivant et vous êtes mort.
Oui, ça spoil un petit peu d'ailleurs le titre.
Oui, pour parler de quelqu'un de mort, une biographie pour parler, c'est parfait. C'était très bien vu. Mais donc c'est vraiment Philippe K. Dick, c'est moins l'utilisation de la technologie ou même de, mais c'est que des trucs de perception altérée. Le maître du haut château, par exemple, si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est que des trucs d'uchronie, perception, etc. Alors que Gibson, ça serait plutôt du matérialisme technologique, oui. etc.
Alors souvent, il y a quelque chose qui m'a choqué, enfin non, qui m'a pas choqué, mais qui m'a interloqué sur l'écriture de Gibson, c'était l'abondance de marques. Tout a une marque, c'est-à-dire tout objet, il ne peut pas s'empêcher de donner le nom de la marque. Ce que tu vois aussi dans Ready Player One, un film beaucoup plus récent.
Le roman, on va parler du roman.
Ready Player One ?
Ouais.
Ah oui, de 2011, de Ernest Cline. À chaque fois que Wade cite une technologie ou quoi que ce soit, il faut toujours qu'il rajoute la marque.
Mais dans les années 80, Gibson. Dans les années 80, c'était vraiment le name branding. Hein. Par exemple, c'était les Air Jordan.
Ouais. Ouais.
C'est Nike et Adidas qui se battent à coups de sportifs interposés.
Le triomphe du libéralisme sous Nixon.
D'ailleurs, est-ce que vous êtes Coca ou Pepsi ? Réponse dans les commentaires. Le premier qui me répond Briscola aura des points internet.
Donc toi, tu penses que c'est plus un trait des années 80 plutôt qu'un trait de l'auteur lui-même ?
Exactement.
D'accord.
Et ce qui est génial donc dans les bouquins de Gibson, c'est qu'en même temps c'est très futuriste et en même temps c'est très ancré dans l'époque même des années 80.
Oui, alors Gibson a cette particularité qu'il ne cite jamais la date à laquelle les histoires se déroulent. C'est-à-dire qu'on sait que ça se passe entre le 21e et le 22e siècle, on ne sait pas trop exactement où. On sait qu'on parle parfois du siècle dernier, alors peut-être qu'il fait référence au 20e, 21e, on ne sait pas. Ça, je trouvais que c'était une très bonne idée parce que bon. Blade Runner, c'est censé être en 2019. Donc voilà, c'est un petit peu trop court.
Hein. Et Cyberpunk en 2000.
Cyberpunk, c'est.
2017, 2000.
Ouais, le jeu de rôle, tu parles.
Ouais, exactement.
Le jeu de rôle, il est sorti en 91, enfin en 91. Et ça doit se. Non, c'est en 2020, je crois. 2020.
Ouais.
Ouais. Et personnellement. Alors, pour sortir un petit peu de du cercle Ping, K. Dick, Ping, Gibson.
Et donc, je considère Gibson, Dick n'étant qu'un autre auteur qui pourrait, à la limite, être rattaché au mouvement cyberpunk, mais qui n'est pas cyberpunk lui-même.
Oui. Ben, je trouve que le mouvement cyberpunk, personnellement, est le mouvement qui décrit, à mon sens, le mieux le futurisme. Pour moi, le futur cyberpunk est le futur le plus crédible. Et ce qui est assez... Alors, rigolo,
le futur cyberpunk ou le futur où il y a les licornes qui rotent des bisounours roses à la japonaise, etc. Parce que dans le mouvement de Gibson, c'est quand même du noir. C'est quand même du désespéré.
Bah, c'est une dystopie. C'est clairement une dystopie, le cyberpunk.
Oui, mais par exemple, si tu regardes Ghost in the Shell, etc.
C'est toujours une dystopie.
Oui, mais c'est une dystopie, mais plus heureuse, etc. C'est pas, tu vois pas le métal, la chair, les cam-shoots dans la rue, etc. Alors que tu as vraiment l'odeur de l'essence dans les bidons qui flambent.
J'allais y venir. Pour moi, justement, Ghost in the Shell est assez intéressant parce que j'ai l'impression que ça pourrait se passer dans le même univers que Gibson, mais ce ne sont pas les mêmes personnages.
Non, c'est un autre parti pris. C'est-à-dire que la technologie peut servir le bien de toute l'humanité. Alors que dans Gibson, la technologie ne peut faire le bonheur que de certains puissants. Et que les autres sont obligés de travailler à vie pour la corpo. Et pour être efficients, doivent subir de très lourdes modifications physiques.
Oui. Mais je ne suis pas sûr que tu comprennes ce que je voulais dire. C'était que les deux univers coexistent. C'est-à-dire que pas forcément les super super puissants, mais du moment que tu es plutôt bien dans la société, comme par exemple un flic, parce que dans Ghost in the Shell, je sais plus comment s'appelle le personnage principal, c'est une flic, mais tu pourrais tout à fait avoir le personnage de Case, le personnage principal de Neuromancien, dans l'univers de Ghost in the Shell, qui est en fait un espèce d'ancien militaire.
Non, Case aurait beaucoup plus de privilèges dans l'univers de Ghost in the Shell parce que lui, il a quand même une bombe à retardement dans sa colonne vertébrale, Case. Est-ce que tu vois ça dans Ghost in the Shell? Non, la nana, elle a pas une bombe corticale, genre si tu dis merde à Mitsubishi, son cerveau explose. Non, ça tu le vois pas dans...
Oui, oui.
Non, il y a quelque chose de désespéré. Tu es à cet état-là, tu ne pourras jamais gravir la société, tu ne pourras jamais... Il y a une sorte de nihilisme,
de
désespoir.
Ouais, on retrouve ce côté de classe populaire avec les puissants et les moins que rien, sachant que dans le cyberpunk, ton corps appartient à une entreprise.
Ça peut, en tout cas.
Bah, voilà.
C'est-à-dire que, par exemple, dans une des nouvelles de Gravé sur Chrome, il y a une actrice, quand elle meurt, il y a la corpo qui vient récupérer les greffes qu'elle a.
Et sachant que
c'est chaud.
Que par exemple, si tu n'as plus d'argent pour entretenir une prothèse ou un abonnement que tu pourrais avoir pour avoir un bras, mâchoire, extrait de mémoire du cerveau, eh bien, l'entreprise peut soit les récupérer, soit te les activer.
Exactement. Vous pensez qu'on exagère ? Non. Il y a des voitures actuellement qui sont équipées, si on ne paye pas la location, de rentrer elles-mêmes au garage.
Oui.
c'est une nouveauté qui a été annoncée il y a 3-4 mois.
Oui, ça c'est là où on commence un petit peu à franchir une certaine limite. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait aussi cette histoire qui avait été racontée dans la presse américaine, où il y avait cet homme qui avait livré chez un particulier et avait cru entendre au moment de sa livraison une insulte raciste. En l'occurrence, le livreur était noir. Mmh. Et le système de gestion de la maison, qui est un système Amazon, a bloqué la maison suite à la plainte du livreur. En fait, le livreur a dit sur les réseaux sociaux qu'il s'était fait insulter par cette personne à telle adresse, et Amazon a désactivé le système de gestion de la maison, y compris la serrure d'entrée. Ce qui veut dire que le mec ne pouvait plus rentrer chez lui.
Mais tu sais que tu pourrais transposer exactement cette histoire dans les années 80 avec juste un département de droit civique américain et un perroquet dans la maison qui... Genre, supposons que t'as quelqu'un qui défend la... Qui défend la cause des Afro-Américains dans l'appartement. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte et il y a le perroquet qui dit nigger motherfucker.
Oh là là.
Alors le gars, après, il est inéligible à vie dans la ville. Hein.
Ouais.
Ça,
oui, parce que le perroquet, il l'a pas inventé. Ouais.
Oui, mais voilà.
Oui, parce qu'on. On peut pas accorder le bénéfice du doute à ce que le perroquet aurait mal compris. Un perroquet, ça répète
ce que dit lui ou d'autres personnes. Et si vous vous plaignez que vous ramassez trop de suggestions de sites louches dans vos recherches,
toujours les cookies.
Rappelez-vous que votre navigateur stocke votre historique de recherche et vous fait des propositions
en fonction. Il y avait aussi, alors ça avait fait un petit scandale dans les années 2013-2014, il y avait un jeu de basket. Et je crois sur PlayStation 3 ou 4.
Ah oui.
J'explique parce que c'est un petit peu vieux, et sûrement que la plupart des gens s'en rappellent plus. Et le joueur avait insulter sa télé, mais comme fait n'importe quel gamer. Oh putain, fais chier.
Ah, moi non.
Moi ça m'arrive. Et l'arbitre dans le jeu sanctionne son équipe pour langage. En fait, ça faisait partie de l'immersion du jeu de compter les gros mots que pourrait dire le joueur. De la même manière qu'en jouant, on ne peut pas insulter l'arbitre.
Non, mais tu sais, la rupture du quatrième mur, ça s'était vu avant pour Solid Metal Gear.
Metal Gear Solid.
Ta Psycho Mantis, quand tu l'affrontes, il regarde les jeux que tu as sauvegardés dans ta mémoire et tout d'un coup, il te dit « Tu as trop joué à Castlevania ?» Ou alors « Tu as joué jusqu'ici sans sauvegarder ?»
Oui, en évoquant le méta.
Et pour battre Psycho Mantis, il fallait changer la manette de port. Parce que sinon, il lisait toutes tes input manettes et il l'esquivait.
C'est un petit peu, c'est du méta, mais c'est un petit peu le cyberpunk. Cette espèce d'interaction.
Alors, voilà notre point de discorde entre Octorius et moi-même. Voilà le problème, voilà le fléau, messieurs, dames. Nous sommes accusés. Et inclusive. Et vice-versa. Et vice-versa.
et pas forcément dans cet ordre.
Peu importe. Bref. Je serai bref. Vous avez 4 heures. Donc, il y a la réaction du rigoriste, un petit peu serré, étroit d'esprit, que j'avoue bien être parfois, parce que délimiter un sujet, c'est aussi un peu limiter son esprit. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement ? Un mouvement ne peut être fait que par des gens qui l'autoproclament, etc. Pas de récupération, pas de truc par anticipation, machin, tout ça. Alors que pour mon collègue de travail, Octorius...
Alors je te laisse... dire ma pensée, puis je recorrigerai derrière.
Alors lui, c'est un fanboy de la One.
Alors non.
Lui, c'est un fanboy de la One.
Non.
Quand il y a quelque chose, quand il s'intéresse à un mouvement, au hasard le cyberpunk, pour lui, tout d'un coup, automagiquement, tout devient cyberpunk.
Non, pas du tout.
Genre, la Tesla avec des caméras qui vous filment pendant que vous êtes en train de conduire, c'est cyberpunk.
Ben, oui.
Ben non, ça s'appelle de la surveillance, c'est pas du tout cyberpunk.
Ben pour moi, le cyberpunk, ça, il vient toujours avec cette dystopie des grandes corpos qui viennent sur le quotidien.
Oui, mais c'est qu'un aspect. Pour moi, le cyberpunk, c'est le full pack. C'est-à-dire qu'il faut des drogues, il faut du métal, il faut du punk et du désespoir, il faut une très grande différence hiérarchique dans la société, et il faut que ça soit noir. Je te rappelle que la ville de Cyberpunk s'appelle
Night City.
c'est pas Glory Sunday,
hein. Sunnydale.
Sunnydale.
Mais et bon, alors là, je suis tout à fait d'accord sur notre désaccord. C'est que pour moi, le cyberpunk est beaucoup plus vaste que ça. On peut avoir des cyberpunks qui soient sans le côté économique, grosse corpo. On peut avoir que des grosses corpos. On peut avoir que. Enfin, il y a des éléments du cyberpunk pour
tu peux dire éléments de cyberpunk, tu peux dire qu'il y a une touche de cyberpunk, comme il y a une French touch, comme il y a une touche impressionniste ou une touche romantique, etc. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui dit je t'aime dans un film que ce film doit être romantique. Les romantiques, c'est Nerval, c'est Goethe, c'est...
Je pense aussi que...
Tu fais juste du cherry-picking, tu prends... Non, mais tu vois, t'as un ensemble de trucs qui font un genre, et à mon avis, ce que tu fais, c'est que s'il y a deux, trois trucs du genre qui apparaissent dans un truc, on s'en fout. Si c'est pas le total, tu vas dire que c'est le truc.
Non. Je considère que les genres peuvent évoluer tout en restant toujours avec leur appellation. Je rappelle d'ailleurs que justement pendant les années 80 et 90, il y a le Japon qui est passé par là avec une bien plus grande bienveillance envers la technologie, alors que l'Occident, dans les œuvres que l'on produit en Europe et aux États-Unis, on avait toujours eu une vision assez noire de la technologie. C'est le truc qui se retourne contre l'humanité. Alors que les Japonais, avec leur animisme,
tu fais beaucoup de socialisme. Je suis sûr que je te trouve une vingtaine d'œuvres japonaises.
Il y en a.
Parce que en fait, c'était.
Il y a un optimisme envers la technologie.
Optimisme.
Qui s'est répandu maintenant en Occident grâce à la culture japonaise qui s'est répandue beaucoup en Occident, mais avant les années 80,
je sais pas.
Il y a une certaine.
Je sais pas. Quand tu vois Galaxy Express 999, c'est crade. L'univers est ultra crade. Donc même genre, même univers que et même dessinateur que Albator, etc. C'est Queen Esmeralda. Je veux dire, l'univers est crade et le garçon est et balader de planète en planète, de système en système, en voulant savoir qu'est-ce que la mort et comment y échapper.
Parce que si tu regardes, juste un truc, si tu regardes bien, dans la période la plus optimiste occidentale, on va dire surtout les années 50.
Non, je prends surtout les années 20, ce qu'on appelle les Roaring Twenties.
Non, mais je parle vraiment quand on... L'optimisme de la science-fiction, vraiment les Jetsons, les années 50, 60.
Non.
Attends.
On a d'autres visions.
Les robots sont souvent des créatures à se méfier. Même dans les Jetsons, même dans Planète Interdite, le robot, c'est toujours celui, il faut se méfier. Alors que Astro, le petit robot, c'est le héros de l'histoire.
Oui, mais par contre, dans les années 20, en Europe, dans les années 10-20, on avait un mouvement qui s'appelait le futurisme. Et c'était glorieux. C'était Sunday. C'était oui. Glory Sunday.
Mais il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'était des outils. C'était des grosses machines à vapeur.
Mais on les imaginait déjà. Chez Jules Verne, etc. Et c'était pour le bien de l'homme.
Mais chez Jules Verne, il n'y a pas de machine qui pense. Il n'y a pas de machine qui réfléchisse. Il n'y a pas de machine qui prenne le rôle de l'homme avec la moustache et le cire à moustache.
et les fixes chaussettes. Non, mais c'est clair que depuis les efforts nazis, désolé, ça sera démotivé. depuis les efforts. et en anglais, je veux dire, avec la bombe de Turing pour décoder Enigma.
Ah oui, alors ça c'est pas les nazis, c'est les anglais.
Oui, mais je veux dire, les nazis aussi avaient développé des ordinateurs.
Oui, voilà.
Des vrais, hein, mais des...
Enigma, hein.
Non. D'accord. Enigma, c'est électronique. Non, ils avaient vraiment développé des ordinateurs.
D'accord.
Hein, il y a, je ne sais plus quel projet M ou quel genre. Il y avait quand même des ordi. Hein. Ça allait qu'à un cas. Hein. C'est pas pour rien que bug, ça vient d'une mouche qui vient s'éclater mollement sur une lampe. Et ça poussait tous les calculs.
Oui.
À cause d'une mouche. Je me demande quel était le budget des dératiseurs employés pour les
dératiseurs
pour les
salles informatiques.
Non, mais le gars qui... Je veux pas qu'il y ait une seule bestiole qui entre dans cette salle. Désolé, mais on a quand même des programmeurs. Hein. Vous savez, c'est des drôles de bêtes hein, aussi.
c'est vrai.
Les automates existaient déjà du temps de Jules Verne, etc. Et le mot robotime, je travaille, a donné robot, c'est dans les années 1870-80, à peu près dans le même style que la nouvelle de Gustav Meyrink qui s'appelle Le Golem, qui est fondateur des robots quelque part. C'est imagine une créature de Frankenstein, mais purement mécanique.
Oui, alors robot, ça vient du slave, je sais plus.
Robotime, qui veut dire je travaille.
Esclave ou. Ouais,
c'est de Karel Čapek.
Ouais.
Justement, je crois que c'est une pièce de théâtre, d'ailleurs.
Il peut y avoir une pièce de théâtre, mais tu vois que ça en est toujours sur un champ lexical assez négatif. Soit c'est un esclave, soit c'est quelqu'un ou quelque chose dont on doit se méfier. Astro, je reviens à lui, parce que c'est le premier de Tezuka, des années 50. Non seulement c'est pas un esclave, non seulement il faut pas s'en méfier parce qu'il est plein de bonnes intentions, et en plus.
Mais justement, dans les premiers dessins animés, il y a quand même des il est quand même au but, à une oppression systémique sur les robots, sur les intelligences artificielles, etc. Oui, dans Astro, que ça soit dans la première série japonaise, pratiquement. Illisible parce qu'en noir blanc.
Oui, non,
mais il y a des gens qui veulent limiter le pouvoir d'Astro et de ce genre. Mais même là, on se méfie.
Oui, mais je veux dire le point de vue du spectateur. On te montre clairement que ceux qui s'en méfient, ce sont des méchants ou des gens qui ont peur. Et Astro, il est plein de bonnes intentions.
Les gens qui ont peur ne sont pas forcément des méchants.
Certes.
Tu sais quand il y a un voisin qui vient d'emménager près de chez toi, tu as peur. Mais
non.
Je te montrerai mes voisins. mais après c'est tu as peur, mais est-ce que tu es méchant avec eux? Non, tu n'as pas envie de démolir leur audio station ou comme ça à coup de massette, sauf s'ils font du bruit à partir de 22h05, ça on est d'accord. Mais
non, mais voilà, je vois pas dans la culture occidentale un personnage qui serait le premier ou le deuxième personnage principal d'une œuvre qui soit artificiel, qui soit un robot et qui soit pleinement un personnage positif, plein d'espoir, vraiment un héros, le héros dans le sens premier du terme.
Genre Passepartout.
Pourquoi Passepartout? partout.
Ben, c'est le deuxième personnage de...
c'est pas un robot.
Non, je sais, mais c'est ce genre de type vraiment positif,
oui,
etc.
Oui, voilà.
Le sideman, mais toujours...
Oui, voilà.
Toujours content, voilà.
Un méca passe partout, si tu veux.
Mais c'est ça, je veux dire, ça c'était une autre discussion qu'on avait. Ce qui est marrant dans les romans de Jules Verne, c'est que parfois les héros, c'est des les héros sont étrangers, etc. Mais les sidemen sont toujours des Français et sont toujours optimistes, etc. Et font tout pour que le héros réussisse sa tâche.
Ouais, alors c'est marrant que toi tu retenu ça, alors que moi j'ai retenu, bah, c'est que des sidemen, c'est pas les héros.
Non, mais c'est ça qui est le héros, c'est qui? C'est celui qui fait toutes les actions, ou c'est celui qui c'est le facilitateur derrière qui fait tout pour que tout soit bien huilé?
Bah, tu sais, au foot, celui dont on se souvient, c'est celui qui a marqué le but, c'est pas celui qui a fait la passe décisive.
Si. Et parfois, c'est celui qui a fait l'arrêt décisif aussi. C'est bizarre.
L'arrêt
hein.
décisif, je veux bien, mais...
La passe, oui, aussi. Hein. Passe géniale de Ronaldo. Quand c'est en plus un attaquant, genre passe géniale de Ronaldo pour un schnock dans les 16 mètres. Tu vois, même si tu marques un but, tu peux être invisibilisé parce que justement, le gars qui a fait la dernière passe, c'est une superstar.
Ouais, même là, franchement,
je t'assure que oui.
De celui qui a vraiment marqué, quoi.
Non.
Mais par exemple, dans Wells, hein, qui est le némésis de Jules Verne, non, qui est le contemporain qui faisait aussi de la science-fiction à la même époque, lui, alors ça, les méchants sont anglais.
Sauf qu'il a fait aussi des wargames. Hein.
Attends, les héros sont anglais, les méchants sont anglais, les sidemen sont anglais. C'est, heureusement, les martiens sont pas anglais, mais bon, encore, il faut.
Mais ils sont quand même arrivés en Angleterre.
Ah oui. C'est pas qu'il est à Paris quand même. Non mais voilà.
Donc c'est du ultra local, quoi.
Ah non mais c'est local. Alors attends, tu me parlais de Wargames.
Mais oui, il avait fait des règles pour des Wargames, hein, d'ailleurs, H.G. Wells.
Oui, c'est vachement en avance sur son temps. Hein.
Non, Clausewitz 1750, le Kriegspiel, ça a été inventé par les Prussiens pour simuler les batailles.
Oui, alors je sais que les Prussiens faisaient, moi je pensais que c'était eux qui l'avaient inventé, qui faisaient des batailles, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils étaient arrivés à prendre Paris, parce que les Français étaient moins entraînés, et en plus la plupart des armées se trouvaient en Afrique pour faire les colonies. On s'éloignait pas mal du cyberpunk. Là.
Oui, mais supposons qu'on prenne le terme wargame. Je veux dire, est-ce qu'on pense à Avalon Hill dans les années 80-90 quand le truc tournait encore et puis que la boîte tournait encore et puis avec ses magnifiques cartes pleines d'hexagones, etc. Et tout. Ou est-ce qu'on pense à H.G. Wells, ou est-ce qu'on pense à Clausewitz et autres avec le Kriegspiel? Je veux dire, qu'est-ce qui est fondateur, qu'est-ce qui est précurseur et qu'est-ce qui est vraiment le mouvement? Tu vois?
Non, mais c'est bon, c'est une bonne remise sur les pieds.
Ah oui!
Qu'est-ce qui est précurseur et qu'est-ce qui fait partie du mouvement?
Qu'est-ce qui est annonciateur? Par exemple, supposons que on pourrait dire quelque part que le romantisme est annonciateur des films à happy end hollywoodiens des années 40-50.
Alors je sais pas, parce qu'en général les œuvres de romantisme ne se finissent jamais bien. Je parle du romantisme du 19e
oui,
siècle.
Oui, genre, il y a des ruptures, il y a des suicides, il y a des...
que ce soit le Carmilla de Sheridan Le Fanu, que ce soit...
Ah non, ça c'est presque un roman gothique. Carmilla, c'est pas romantique, c'est gothique.
Ah.
Et oui, oui, et
l'amour
oui.
des ruines, tout ça, oui, c'est plus.
C'est du gothique, hein, c'est du roman gothique, ça. Attention.
Oui, confesse, je confondais les deux.
Ça nous permettra de rebondir sur l'autre.
L'autre.
Point de Discord.
Alors, c'est quoi déjà le point de Discord sur ce point-là?
Alors, gothique. Tu disais que, voilà, Baudelaire était goth.
Ah, oui.
Selon des blogs, selon Skyblog.
J'ai pas dit goth, parce que goth, c'est ça.
C'est les envahisseurs.
Ça fait...
Marcel Vincent.
Ça fait vraiment référence au GOT, et d'ailleurs même, il faut quand même, on parle en 2023, c'est quand même déjà has-been, hein, GOT. On parlerait à la limite des mots, et encore,
je connais personne GOT. Hein.
Et encore, je suis même pas sûr que emo ce soit encore à la mode.
Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, de toute façon, si c'est pas la mode, attends 10 ans, ça reviendra.
Oui. Mais est-ce que Baudelaire est gothique? Pour moi, oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il fait partie des références principales des aficionados de la musique, littérature,
bien sûr,
gothique.
Bien sûr.
Donc, mais
non. Alors, moi, je dirais que Baudelaire est un très bon annonciateur du mouvement gothique, mais il n'est pas gothique lui-même, parce que il ne s'est jamais réclamé du côté. Il sera un parnassien à la limite, comme un impressionniste, un symboliste. Mais ce n'est pas un gothique. Par contre, les personnes qui étaient gothiques à l'époque de Baudelaire, justement, sont Sheridan Le Fanu, sont par exemple Horace Walpole, avec son fameux roman Le Château d'Otrante, qui est le premier roman gothique que l'on connaisse. Tu vois, c'est le problème, que quand tu dis gothique, pour Baudelaire, c'est en plus un anachronisme, et en plus malheureux, parce qu'il y a un véritable mouvement gothique contemporain à Baudelaire qui se débarque complètement de Baudelaire, qui, lui, ses terreurs, c'était des terreurs mentales qu'il a métaphorisées, par exemple, sur le vampire, sur la charogne, etc. Mais lui-même ne se considérait pas comme gothique, alors que d'autres écrivains se sont proclamés gothiques, mais pas au sens du goth emo aimant Marilyn Manson sur les tombes. Non, mais tu vois, c'est pas le même mouvement du tout.
Attention, parce que ce n'est pas parce que on nomme quelque chose a posteriori que on ne peut pas reprendre. Un exemple, la littérature médiévale. À l'époque médiévale, le terme médiéval n'existe pas. Ça veut dire que les écrivains du Moyen-Âge ne se considèrent pas eux-mêmes comme des écrivains du Moyen-Âge. Parce que pour eux, ça s'appelle le présent.
Oui, mais je te répondrai par autre chose. Par exemple, prenons l'Oulipo, voire la littérature potentielle, qui est un mouvement littéraire formaliste, essentiellement formaliste, qui prend par exemple parti le point de vue que tout a déjà été écrit, tous les grands thèmes ont déjà été écrits. Tout ce qu'on peut faire, c'est maintenant, c'est la forme. Attends. Et, par exemple, un génie absolu du mouvement Oulipo, c'est Georges Perec, qui a écrit, entre autres, un exploit, un roman de 320 pages où ne figure pas du tout la lettre E, qui s'appelle « La disparition », roman.
Oui.
Mais Évidemment, les gens de l'Oulipo, dont faisaient partie François Le Lyonnais, Marcel Benabou et autres, ont recherché des textes qui ressemblaient à leur effort sur le formalisme, etc. Et ils les ont appelés, et c'est là que ça devient très drôle, plagiat par anticipation.
C'est malhonnête.
Non, par anticipation. Non, ça veut dire que ils reconnaissent que c'est annonciateur, etc. Mais ça ne fait pas partie du mouvement. Mais on pourrait, avec une relecture un peu biaisée, certes, on pourrait les incorporer à ce mouvement-là, mais c'est biaisé, c'est anachronique, et c'est du plagiat par anticipation.
C'est la différence qu'il y a entre un...
Toi et moi.
Non. Entre un bibliothécaire et un historien.
Attends.
Le bibliothécaire, historien évidemment, historique, va simplement prendre les dates, les informations, point. L'historien va tracer des lignes entre les événements et voir si certains événements sont connexes les uns aux autres pour voir s'il n'y a pas une évolution, une trame, quelque chose de commun pour en faire une analyse. Et, on fait ça aussi pour les mouvements littéraires.
Oui, mais ce qui est sublime, c'est que c'est l'historien qui va imposer quelque part au bibliothécaire le code où les romans ou les textes doivent être rangés. Par exemple, est-ce que...
c'est vrai. Si on avait des historiens qui se mettaient d'accord sur le fait que telles œuvres appartiennent à tel mouvement parce qu'il y a
courant littéraire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire de la littérature.
Oui.
Par exemple, le mouvement gothique au 19e siècle.
Oui, mais par exemple, le cinéma du début du XXe siècle est quelque chose qui relève plus de l'attraction de foire que du spectacle ou même de l'art.
Non,
je parle vraiment de 1905, 1906, de Terre à la Lune de...
Ben justement, ça, c'était quelque chose qui voulait raconter quelque chose. C'est pas une attraction, il y a un projet. Comme dirait Emmanuel,
que Méliès ait ce projet en tête, ça c'était sûr qu'il voulait faire évoluer le cinéma. Mais à l'époque, les gens, quand les contemporains de Méliès, ils voient le cinéma comme ça n'a rien à voir avec la littérature, c'est un truc de fête foraine. Mais après, quand tu es en 2023 et que tu vas faire une histoire de la science-fiction, tu vas le mettre dedans aussi.
Pas forcément. Tu vas dire. Ça a été précurseur, mais justement c'est ça qui est génial avec le terme précurseur, c'est que tu peux reconnaître une parenté, une filiation, parce qu'une parenté c'est toujours une filiation si on va dans l'autre sens, hein. Tu peux reconnaître une parenté, une filiation entre plusieurs courants. Qui n'appartiennent pas forcément les unes aux autres, qui ne peuvent pas être englobées les unes dans les autres. Par exemple, toute la musique que j'aime, elle vient du blues, mais est-ce que je pourrais parler de la variété actuelle comme du blues ? Non, mais ça a été inspiré du blues. Par exemple, pourquoi est-ce que les chansons durent X minutes ? C'est parce que le support en lui-même ne permettait pas de stocker plus.
Il y a aussi quelque chose de très intéressant sur la récupération des œuvres.
Et la récupération, c'est très post-moderne, hein, quelque part. Toi, t'as été un artiste récupéré. Mais comment ça ? J'ai toujours fait des trucs originaux.
Non, mais par exemple, quand on va analyser le féminisme et qu'on va prendre...
Ne parle pas de choses que tu ne connais pas.
Attends, si.
Non.
Et qu'on va prendre des œuvres plus ancienne, à une époque où le féminisme n'existait pas, c'est quand même légitime de l'inscrire dans un mouvement de libération des femmes, même si elles-mêmes, les femmes concernées au 16e, 17e, 18e siècle,
avaient d'autres objectifs,
n'avaient pas forcément cette idée de mouvement continu de libération de la femme.
Non.
Mais on s'en rend compte que cumuler, ça fait un mouvement.
Oui, mais c'est pour ça qu'on dit précurseur, annonciateur, que c'est une marque temporelle après laquelle on ne peut plus voir le truc de la même manière, etc., etc. Par exemple, quand Simone de Beauvoir écrit, évidemment, elle n'a pas et ne prend pas le terme féminisme dans le même sens que actuellement.
C'est pas dans le même sens, mais il y a. Mais moi, c'est le truc, c'est de prendre une histoire commune et de voir que cette histoire commune a une évolution.
Par exemple, pour reprendre mon analogie avec la musique,
oui.
Toute la musique que j'aime, elle vient du blues. Oui, mais est-ce que le rock
vient du blues?
Le rock vient du blues. Mais est-ce que le rock, c'est du blues? Non. Non. Est-ce que le funk, la soul, elles viennent un peu du rock, mais elles ne sont pas le rock. Les premiers rap qui utilisent des samples funk et soul, c'est pas de la funk, c'est pas du soul, et c'est pas du spoken rhyme comme le faisait Afrika Bambaataa. Non, mais non, tu ne peux pas non, dire non. ça. C'est annonciateur, c'est précurseur.
Là, genre, c'est clairement deux mouvements différents. Le blues et le rock.
C'est le même parce que il y a certains morceaux rock qui ont la même construction que des blues.
Voilà. Oui, mais il y a eu vraiment un moment, et je pense alors que je pense que c'est Elvis qui a vraiment fait la scission.
Non. Et Elvis, c'est un porte-drapeau, mais c'est pas le premier du tout.
Le fait d'avoir vraiment utilisé la guitare comme il l'a fait,
ça ne se faisait pas
dans les années 40.
Non, mais années 50, mais ça c'est pas...
Elvis, c'est des 50.
Oui, mais il y en avait d'autres qui étaient avant Elvis qui l'ont fait, qui sont moins connus que lui. Mais, comme je t'ai dit, Elvis, c'est le porte-drapeau.
Je te l'accorde qu'il y en a que je connais pas.
Il y en a beaucoup que tu connais pas. Ça s'appelle la musique, cher ami Couturius. mais donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre une sorte... Dans le même terme on est tenté de faire la même erreur que certaines personnes pour l'évolutionnisme, à savoir que ça engendre ça, engendre ça, engendre ça. Alors que, en fait, il y a un tronc commun et parfois tu as des radicelles qui vont faire plusieurs genres différents.
Oui, c'est ce que je dis.
Oui, mais par exemple, pour la musique.
Oui, bah.
Comment ?
Bah,
exemplifie.
Bah, c'est-à-dire que au départ, tu as la musique classique, qui est la musique occidentale.
Non.
Non.
Oui.
La musique occidentale. Tu as aussi de la chansonnerie de rue, et tu as l'arrivée par les anciens esclaves africains du rythme, c'est-à-dire de la batterie. D'ailleurs utilisé avec les anciens tambours militaires. Tu as cette espèce de cette jonction entre les deux va donner le jazz donne le blues donne le rock donne le électro rock donne le électro tout court.
Non, mais pas seulement. Par exemple, si tu veux. Pour la house, ça a donné entre autres l'EDM, mais il y a plusieurs courants parfois qui peuvent coexister en même temps. Le hard rock, le heavy metal sont des genres qui ont coexisté.
Évidemment, et tu as toujours des groupes
qui peuvent switcher de l'un à l'autre.
Non, qui ont mixé les deux et qui parfois sont très uniques. Je pense par exemple à Linkin Park qui a allié hip-hop et rock.
Non mais on avait dit qu'on parlait musique. Non mais par exemple les Rolling Stones se disaient que c'était avant tout des musiciens de blues. On parle des Rolling Stones, hein. Donc, et puis ce qui est marrant, c'est que justement parfois tu as des apports de différentes cultures en même temps. Par exemple, ça a été traité par PV Nova, mais la batterie.
Ben oui, c'est ça.
Tu prends la grosse caisse qui vient de
l'infanterie. En fait.
Non, ça c'est plutôt la caisse claire. c'est plutôt la caisse claire.
Ah, oui.
Ça c'est plutôt la caisse claire. La cymbale, elle vient des pays orientaux.
Oui, c'est vrai.
Et il y a d'autres choses qui viennent de l'Afrique.
Oui. Le rythme que l'on a dans toute la musique, parce que maintenant il y a toujours un poum 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 dans toutes les musiques. Ça vient de la musique tribale.
Pas forcément. T'avais aussi les trucs pour faire avancer les troupes au pas. qui s'appelait le shuffle. Et le shuffle est réutilisé en jazz et autres. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au début, bon, tu as dit musique classique, mais avant la musique classique, il y avait la musique baroque.
Ouais.
Par exemple, Vivaldi, ce n'est pas de la musique classique, c'est de la musique baroque.
Oui, c'est vrai.
La Monteverdi musique... aussi.
La musique baroque est très certainement la musique classique. À l'époque de la musique classique, devait sûrement se nommer la musique symphonique ou peut-être encore la musique baroque, je ne sais pas.
La musique moderne.
Bon.
Oui, peut-être.
Je m'étonnerais qu'ils utilisent le terme de moderne parce que le terme moderne est justement plus moderne.
Bah, c'est pour ça qu'on doit faire des circonvolutions de langage aujourd'hui pour parler par exemple d'air post-moderne.
Ouais. Et d'ailleurs, un petit détail. Alors, c'est un petit détail. On approche la fin de l'émission puisque ça fait quand même une heure que nous sommes.
Mais c'est pas grave. Ils peuvent nous écouter en plusieurs fois. Le temps n'a pas d'importance. On les a fait marner. On les a fait mariner dans leur sauce pendant un an et demi, deux ans.
Non, nous avons fait une émission sur les trombones il y a quelques mois de ça.
Black trombone.
Oui, c'était
monotone.
Une petite anecdote que j'adore, c'est que dans les films Star Trek, les nouveaux, hein, ceux qui sont sortis après 2010, eh bien, la musique rock années 70-80 s'appelle la musique classique.
Oui, et la musique que tu entends dans la cantina, etc., à Star Wars, oui, s'appelle du jazz. Et pas du jazz, du jazz.
D'ailleurs, c'est pas toi qui m'avais dit que jazz, le mot jazz venait d'un terme africain.
Alors, ça vient de plusieurs trucs. On dit aussi que ça vient de Jezebel, la femme tentatrice, etc. Je veux dire, de toute façon, plus un mouvement connu et contesté, plus il aura d'origines différentes. C'est très difficile de trouver vraiment la paternité du mot jazz, etc. Par exemple, il y avait un pianiste, Jerry Roll Morton, sur sa carte de visite, Jerry Roll Morton, inventeur du jazz.
Oh, le melon!
Ça va! Ça va!
Le melon de l'espace!
Oui! Mais en même temps, je pense que c'était pas mal de l'autodérision aussi. Mais,
ouais, je pense.
Mais voilà, quoi. Je veux dire, comme si le jazz pouvait être inventé.
Il a bien fallu avoir une première occurrence.
Une première qui a été
validée, parce qu'avant c'était un truc un peu qui ressemblait à débattre.
Voilà. Non, mais par exemple, par exemple, c'est toujours marrant, par exemple, toujours en musique, de voir les premiers disques d'artistes.
Ça rien à voir en général.
Par exemple, prenons Jacques Higelin.
Oh.
Hein, voilà. Ah ben, avant de faire sa carrière solo, il a fait un groupe qui s'appelait le groupe Machin. Il est très bon. C'est très très bon.
C'était lui. C'est Higelin. À chaque fois, je suis persuadé que c'est lui qui a écrit Femme libérée.
Non. Déjà, il faut que ça soit une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus.
Moi, c'est toujours. Non. À chaque fois, j'entends Higelin.
C'est un collectif.
Je sais que c'est pas lui.
C'est un collectif. Et en plus, être une femme libérée, etc. En plus, c'est un plus ou moins un plagiat d'une chanson de David Bowie, I Am a Passenger.
Tu sais que La fille du père Fouettard, c'est aussi un plagiat de David Bowie sur l'intro. Hein.
Non, mais de
tout est un plagiat sauf Blue.
Non.
C'est une discorde que l'on a.
Non,
avec,
mais non, non,
Dira
non, mais
que Blue n'a pas d'occurrence.
Non, mais de toute façon, Blue, comme ce n'est pas de la musique, ne peut pas avoir de plagiat musicaux. C'est bon. Non, mais tu vois, ça c'est le problème. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Ça c'est une très grosse question aussi.
Oui.
Parce que je te rappelle que, alors si c'est pas de l'art, c'est quoi? Alors, pire. Certains fans de Cascade et de El Mustachio vont dire que c'est de l'art dégénéré. C'est ce que.
À qui El Mustachio? Ah, le petit excité allemand là.
Ouais.
Oui, d'accord. Oui.
Ouais, ouais. qui a confondu Bavière avec Vabière, quoi, je sais pas. Mais
oui, l'art dégénéré, c'est connu où tu as seul le classique a, est un art et tout ce qui s'en détache, c'est l'art dégénéré.
Et ça permettait de faire une oppression systémique sur les juifs, quoi. Voilà.
Non, oui, mais entre autres.
Non, surtout. C'était surtout eux qui étaient visés. Hein. Ouais. On trouve ça aussi en Chine. Il y avait Chick Corea qui avait fait paraître dans la pochette d'un de ses disques une citation d'un Chinois qui avait dit que le jazz était contraire aux besoins physiologiques de l'homme.
Quoi ?
Non mais tu vois, quand on veut critiquer quelque chose, on peut parfois recourir aux pires extrêmes.
Oh mon Dieu.
Non mais c'est ça. Mais donc, le gothique, qu'est-ce que c'est ? Vous le saurez plus tard. Le cyberpunk, qu'est-ce que c'est ? Vous le saurez plus tard. Comment on va finir l'émission, vous le saurez maintenant.
En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et c'était toujours passionnant de discuter avec toi, Duracell. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine émission sur un thème tout autre. Bisous et à vous, Chonks. Studio.